Actu SF, les podcasts.
Bien, merci d'être venu pour cette table ronde concernant, concernant le médecin fou et le corps. Alors, c'est un vaste sujet parce que finalement, il a été beaucoup développé dans la littérature et puis évidemment dans le cinéma avec certaines figures incontournables, et même on le retrouve dans la réalité. C'est dire que il correspond à une obsession humaine, et d'ailleurs même en termes justement d'obsession contemporaine concernant notre rapport à la science et aux transformations, à la puissance de la recherche scientifique, aux modifications de la nature humaine, on retrouve encore aujourd'hui ce thème à peu près tous les jours dans les quotidiens. Tu y vas sur la partie littéraire, puisque là il n'y a pas de modérateur,
le médecin fou, c'est une catégorie du savant fou, donc on va essayer de cadrer sur le médecin. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comme l'a dit Olivier, au cinéma, la littérature, on pourra rajouter les comics, par exemple, où il est très présent, mais aussi la vie réelle. Et j'aimerais rapporter une anecdote que j'ai déjà évoquée lors d'une précédente table ronde, mais je pense qu'elle trouve sa place ici. C'est Michel Foucault, je crois qu'il la rapporte. Donc c'est une anecdote authentique. Un jeune couple au début du XXe siècle en France va voir le médecin de famille parce que Madame a des désirs sexuels, donc c'est déjà une occasion d'aller voir le médecin, c'est pas normal. Et le médecin, au lieu de voir ce jeune couple de mariés, de leur dire rentrez chez vous, profitez, vous êtes jeunes, etc., prend en compte la considération et propose ce traitement. Donc Madame sera immergée dans un bain à forte solution saline de manière à ce qu'elle se noie pas et de manière à réfrigérer son corps et à lui ôter tout désir. Et ce qui devait arriver arriva. Vous savez bien que quand on prend une douche ou un bain prolongé, on a les extrémités qui se fripent. Elle, ses muscles, le sphincter, c'est-à-dire les muscles qui retiennent les orifices de l'organisme, se sont détendus et elle s'est vidée de ses organes internes et elle est morte et elle n'avait plus de désir sexuel. Autrement dit, le médecin a réussi. Et en fait, à travers cette anecdote, je crois qu'on peut poser ce qu'est le médecin fou, justement, ce qui peut paraître étonnant. C'est pas une question de savoir, c'est pas une question d'intelligence, c'est même pas une question de diagnostic, puisque on va voir tout de suite dans l'ensemble des exemples qu'on va prendre, il y a des pervers narcissiques, il y a des psychopathes évidemment, mais la folie du médecin et de manière générale du savant fou, c'est son intelligence justement, c'est ce qu'on appelle la raison folle. C'est une raison qui fonctionne très bien, qui fonctionne trop bien, et elle va décider à un moment de pouvoir tout expliquer, de pouvoir tout organiser, tout structurer. Vous savez, c'est comme ces dessins de l'humoriste anglais Robinson, où pour peler une patate, il fait une machine qui occupe toute la cuisine. D'un point de vue raisonnable, c'est complètement fou, mais ça marche. Et donc, c'est ça le médecin fou, c'est celui qui pense que l'intelligence peut tout régler. Et c'est une intelligence qui est en fait malade.
Une des caractéristiques, c'est que c'est un individu, le médecin fou. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, il peut avoir une formation, il peut être intégré dans la société, dans l'absolu, mais il va réagir par rapport à des propres obsessions, par rapport à un désir, et généralement aussi pas mal par rapport à des désirs inconscients et des manques psychologiques que je vais développer un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'il il voit le monde comme une sorte de terrain de jeu, pratiquement, sur lequel il va pouvoir déverser un certain nombre de méthodes plus ou moins bonnes, ou alors poursuivre des buts plus ou moins intéressants. Et le pire, c'est que généralement, Bien sûr, il peut y avoir des fous furieux, vraiment le fou dangereux, mais il n'y a pas forcément volonté de nuire. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que on peut finalement, c'est vraiment l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, on peut se retrouver avec une figure qui va avoir une intention louable, et en fait, ça ne va pas fonctionner au final.
Dans les intentions louables, il y en a même d'extrêmement méritoires, parce que toujours dans les cas réels, vous avez un projet universel qui concernerait toute la nature humaine. C'est par exemple de trouver le premier langage humain, donc le langage édénique tel qu'il aurait été parlé au paradis. Alors vous avez par exemple en 1752 le baron Louis Moreau de Maupertuis, qui est élu président de l'Académie de Berlin par Frédéric II. Donc il est devant un parterre de savants. Et Moreau de Maupertuis est un authentique scientifique. Il a notamment démontré, lors d'un voyage au pôle, que la Terre n'était pas ronde. Et Moreau de Maupertuis se présente devant l'Académie et comme premier projet dit « écoutez, on va redécouvrir la langue d'Adam ». Et donc pour cela, on va prendre des enfants de paysans, évidemment ce n'était pas les enfants de la noblesse prussienne locale, on va prendre des enfants de paysans puis on va les mettre dans des cages, isolés chacun, on ne leur parle pas, on leur donne à manger sans parler, de manière à ce qu'ils retrouvent en eux-mêmes, ces nourrissons, la langue telle qu'elle a été parlée par les premiers hommes. Et Maupertuis continue en se disant « Ouais, mais il faudrait aussi penser aux variations de la langue humaine au moment où Adam et Ève ont été exilés du paradis, c'est-à-dire quand ils sont rentrés dans la terre telle que nous la connaissons, avec ses menaces, etc. » Donc il serait pas mal que les enfants dans les cages connaissent quand même la peur et le danger. Donc on va leur lâcher des molosses sur eux, de manière à provoquer ces frayeurs qui vont modifier le langage humain, etc. Et à sa grande déception, l'Académie de Berlin a dit que finalement non, on ne le ferait pas.
Sauf que ceci dit, cette expérience a réellement été réalisée et évidemment ça a fabriqué des débiles parfaits. Ils ont quand même à ce moment-là estimé que l'expérience avait raté, parce que sinon ça signifiait que vraiment la langue édénique était un ramassis de babillages d'une profonde débilité. Donc ce qui aurait été quand même un petit peu gênant par rapport à leur certitude qu'il y avait d'un ordre divin, d'une langue sacrée qui permette de créer le monde, puisque c'est en fait le verbe avec un V majuscule, donc évidemment ils ont trouver une explication rationnelle. Mais il y a eu de très grands penseurs qui se sont vraiment intéressés à ce concept, notamment Fabre d'Olivet, qui a été l'auteur d'un livre qui a fait référence pendant très très longtemps.
Alors, le médecin, il est médecin dans un premier temps du corps, évidemment, et les problèmes du médecin et du corps commence avec son propre corps, parce que si vous prenez souvent, notamment dans la littérature, les médecins fous et de manière générale les savants fous ont des corps qui vont pas très bien. Alors je pense par exemple à la série Les Mystères de l'Ouest, où le docteur Miguelito Lovelace est petit contrefait. Vous avez Ignacio Narbondo de James Blaylock, qui lui est bossu, a un pied beau, et il a des pellicules en plus, le malheureux. Vous avez aussi, par exemple, un peu moins connu, mais qui ne passe pas dans le film James Bond contre Dr. No, mais dans les romans, le docteur Julius No, a le cœur à droite et il n'a pas de main. Alors, il en avait, mais il a oublié de payer l'argent qu'il devait aux triades, c'est-à-dire à la pègre chinoise, et donc ils l'ont très poliment averti de devoir payer. Et de manière générale, le problème du corps du médecin commence avec son corps.
Oui, mais c'est exactement comme s'il avait de toute façon à compenser un déficit. Et généralement, ce type de personnage développe un désir de puissance incontrôlable. Ça ne va pas être quelqu'un de solitaire. Il va vraiment essayer d'accroître son, de montrer au monde qu'il existe d'une manière ou d'une autre, malgré, justement pour aller au-delà de son handicap.
Alors, il a des problèmes avec son corps et avec son ego. Je pense aussi au docteur Stephen Strange, qui est chirurgien, si je ne m'abuse, qui va devenir le grand sorcier mystique de la Marvel, parce que ses mains sont abîmées lors d'un accident de voiture. Mais ils ont aussi souvent, en dehors des problèmes du corps, des problèmes mentaux, mais pas nécessairement de folie, ils ont des problèmes moraux et psychologiques.
Tout le monde connaît la blague selon laquelle le médecin se prend pour Dieu, mais Dieu ne se prend pas pour un médecin. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le médecin fou, il y a un phénomène, disons une situation dramatique développée. Alors, quand je parle de situation dramatique, je fais référence à l'ouvrage de Georges Polti, qui avait été édité dans les années 30 et qui énumère 36 situations dramatiques de base. Alors, Polti était un féru de théâtre et donc il avait analysé, lu très très précisément et analysé à peu près l'intégralité des pièces de théâtre parues et jouées ou jouées de l'Antiquité jusqu'à ces jours. Et il avait classé les thèmes, les situations, ce qu'il appelle donc les situations dramatiques, en un certain nombre de catégories. Là, il avait trouvé 36. Alors bon, dedans, on peut avoir la vengeance, on peut avoir l'inceste, l'amour impossible, enfin contrarié, comme il dit, implorer, comme bon, par exemple implorer, on l'a dans les Sept Samouraïs, pour prendre un film classique, etc. Et alors la situation 31, c'est rivaliser avec Dieu. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui semble très judéo-chrétien, mais en fait, on le retrouve un petit peu partout. C'est quand un simple mortel, entre guillemets, s'octroie le désir de vouloir avoir une puissance qui ne lui serait pas autorisée par nature. Alors, c'est par exemple devenir immortel. L'homme doit être mortel, donc vouloir la fontaine de jouvence ou autre est interdit, et généralement, du coup, ça se passe mal. C'est également aller vers l'inverse de Dieu, c'est-à-dire, alors là, on se retrouve avec les pactes faustiens, avec l'utilisation de magie noire, etc. Et puis, évidemment, il y a le geste divin par excellence, qui est la création de la vie. Et en termes de science-fiction, bon, immédiatement on pense à Frankenstein, bon, on peut aussi penser au Docteur Moreau, sauf qu'en plus il y a d'autres facteurs dans l'île du Docteur Moreau, mais ça se passe mal parce qu'en fait, et on accepte nous, lecteurs, que l'expérience tourne mal parce qu'on a inscrit dans notre culture collective que c'est interdit. On a cette idée que ce n'est pas bien. Et c'est d'ailleurs une des raisons, même contemporaines, pour lesquelles aujourd'hui, dès qu'on a des recherches médicales un peu poussées, notamment dans le domaine de la reproduction ou de l'incubation ou de la modification génétique, que immédiatement on a des levées de boucliers, c'est parce qu'en fait disons de façon non formulée, on a un malaise, on se dit que ce n'est pas qu'on joue avec le feu, pour dans l'absolu prendre un terme un peu prométhéen, on risque d'avoir plus de problèmes et de désavantages au final.
Certains n'ont pas du tout ce type de soucis moraux. Bon, bien sûr, on a évoqué Frankenstein, qui, entre parenthèses, n'est pas docteur, puisqu'il a renvoyé de la faculté d'Ingolstadt avant d'obtenir son diplôme. Et vous avez des cas un peu de côté, qui me font un pas de côté, et qui sont, par exemple, les médecins qui ne vont pas créer un homme parfait, mais qui vont créer une femme parfaite, Et une femme parfaite, c'est une femme fatale. Alors, vous avez deux grandes œuvres littéraires dans le genre de l'imaginaire. La première, c'est Le Grand Dieu Pan, qui a été publié en 1894 par Arthur Machen et qui imagine la création d'une femme qui va donner elle-même une petite fille, Hélène Vaughan, qui est une sorte de contact entre le rationnel, le scientifique et l'excès, le sacré, le divin du grand dieu Pan. Et puis vous avez surtout un très très beau roman que je vous conseille qui s'appelle Mandragore de Hans Heinz Evers. C'est un roman allemand. Alors là, c'est un mélange assez étonnant de médecine, de science, de mysticisme, de magie. Et il y a un groupe de savants qui décident de créer une femme parfaite, mais depuis, non pas en emboîtant des pièces chirurgicalement, mais en la faisant vraiment naître. Et comme la tradition magique veut que lorsqu'un pendu est exécuté, il éjacule et que si sa semence tombe sur une mandragore, on obtient, enfin sur la terre, on obtiendrait une mandragore, une sorte de fleur femme-enfant, ben, il décide de donner l'équivalent. Donc il récupère la semence d'un condamné à mort et ils injectent le sperme dans une prostituée. Et donc ils obtiennent cette petite fille qu'ils vont bien sûr appeler mandragore et qui est totalement innocente et totalement dangereuse. Et il y a notamment un très bel épisode où ils sont obligés de la déplacer. Elle a 15 ans, elle est déjà extrêmement jolie. Et les savants disent au chauffeur de la voiture, surtout ne l'écoutez pas, ne la regardez pas, ne lui parlez pas, elle est trop dangereuse. Et donc le chauffeur, qui en plus les vides de séparation, est averti, il doit faire un trajet. Mandragore, extrêmement jolie, monte à l'arrière. Et la fin du chapitre est remarquable d'un point de vue littéraire. Il n'y a aucune explication. La voiture fonce dans un mur, elle est complètement détruite et Mandragore sort intacte. Et justement, c'est cette espèce de mélange de science et de magie qui, là, pour le coup, fait le médecin fou. Mais il n'est pas véritablement fou. Il est plutôt habité, oui, justement, par ce désir de divin. Oui, alors, c'est vrai aussi que d'autres savants, eux, ont pour but non pas la création d'un individu, qu'il soit vivant, humain ou animal, mais ils ont pour but aussi de changer le monde entier. Donc la perspective, là, elle est universelle, mais elle n'est pas nécessairement divine, mais elle est politique. Et c'est, par exemple, beaucoup l'objet du cinéma, du savant fou, et qui est souvent, d'ailleurs, même s'il est à la tête d'une organisation criminelle, un médecin, pour le coup. Donc on parlait du docteur No, et de manière générale, l'ensemble des savants fous du cinéma d'espionnage.
Oui, là de toute façon on parle du médecin fou puisque c'est l'intitulé de la table ronde, mais en fait c'est une, on va dire, une sous-catégorie du savant qui n'a pas la conscience. Le fameux science sans conscience n'est pas qu'une de l'âme. Et bien sûr le thème n'est pas neuf, hein, puisqu'on on trouve déjà des exemples romanesques datant quand même au moins de deux siècles, puisque de toute façon il y a le Marie Shelley, mais il y en a d'autres antérieurs. Mais ceci dit, il a pris, à mon avis, un petit coup de fouet, un petit coup d'engrais à partir de la fin de la première partie du XXe siècle, parce que c'est vrai que les recherches atomiques et la course à l'armement, et notamment les deux bombes d'Hiroshima, ont permis une éclosion de fiction, et notamment dans le cinéma de science-fiction, liée à l'incapacité, disons, mettant en avant l'incapacité de l'homme à estimer la puissance de ses propres créations. Et du coup, à créer volontairement ou pas tout un paquet de victimes, et généralement de façon, disons, par rebond. Dans le cinéma, c'est assez clair. On se retrouve avec, par exemple, dans les années 50, tout un ensemble de bestioles qui connaissent des croissances exponentielles. Alors, ça peut être Dem, les monstres attaquent la ville, ou Tarantula de Jack Arnold, et qui sont tout simplement des bestioles ordinaires, mais soumises par accident à des radiations atomiques, et qui reviennent comme presque pour se venger, pour symboliser la nature qui refuse d'être mise à pas par une science et des chercheurs qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leur acte. Ça, c'est vraiment, ça est vraiment, il y a eu une explosion de ce type de création à l'après-guerre, c'est très clair.
Et souvent, donc, avec cette volonté d'aider, par exemple, il y a dès le film de Fritz Lang, Métropolis, le savant Rodvang, sachant en plus que ces savants sont des docteurs, mais en général, on joue sur l'aspect vague du titre, parce que c'est un titre générique, on ne sait pas trop en quoi ils sont docteurs, s'ils sont docteurs en mécanique, en chimie, en physique ou en médecine. Et Rodvang, dans Métropolis, lui, un peu comme le docteur Moreau entre les humains et les animaux, Rodvang, lui, veut trouver une sorte d'équilibre entre les travailleurs humains et les travailleurs mécaniques. Et il a une analogie qui a d'ailleurs été pointée chez DC Comics, dans la bande dessinée, avec Lex Luthor. Alors, Lex Luthor et Rodvang habitent les deux dans leur métropolis respective. Et ils ont les mêmes défauts. Par exemple, à un moment, dans le film Métropolis, Rodvang montre sa main artificielle, il lui manque une main. Luthor lui-même, au fil des aventures et puis des reboots de l'univers DC, perd sa main. Et justement, Jean-Marc Louvissier avait fait une variation très très bien sur à la fois le film de Fritz Lang et Superman jouant sur le côté Métropolis. Mais cette volonté de bien faire, elle touche aussi parfois l'individu lui-même. Par exemple, le Dr Jekyll, lui, passe à une étape suivante puisque il ne modifie pas un autre individu, il ne modifie pas les animaux. Il se modifie lui-même. Alors ça, c'est aussi une variété particulière de scientifique médecin. C'est celui qui a une sorte de double orgueil, puisque à la fois il se prend pour Dieu, et comme seul objet d'expérience, il ne trouve de valeur que dans son propre corps. Et Stephen King faisait remarquer, il y a une très jolie analyse de Stephen King concernant le Dr Jekyll et Mr Hyde. Selon King, quand Stevenson écrit Dr Jekyll et Mr Hyde, il pointe la découverte, une 30 ou 40 ans plus tard, par Freud, de conscient, préconscient, inconscient. Et c'est vrai que si on prend le récit de Dr Jekyll et Mr Hyde, et ne serait-ce que l'architecture de la maison, les gens arrivent par la porte de devant, évidemment. Donc l'aspect de la maison de Mr. Hyde représente le moi social, le médecin, le scientifique reconnu, estimé, la part raisonnable du docteur. De l'autre côté de la maison, dans la porte qui donne sur l'impasse, l'entrée des domestiques, c'est par là que Mr. Hyde va fumer de l'opium, rencontrer les prostituées, etc., etc. Donc c'est l'inconscient. Et au milieu de la maison, dans son salon, il y a le Dr Jekyll, qui est le moi, le conscient, l'être normal. Et le médecin, justement, souvent, et notamment avec la méfiance qui va apparaître dans les récits d'imaginaire concernant la science sans conscience, le médecin va devenir quelqu'un d'éminemment suspect dans la littérature. Il y a le docteur Moreau, puis bien sûr il y a Griffin, dont on ne sait pas trop quelle est la spécialité scientifique, qui va devenir l'homme invisible en s'auto-injectant un produit qui le rend fou.
Mais ceci dit, concernant le docteur Jekyll and Mr. Hyde, je pense que le roman n'aurait pas été développé de la même manière s'il avait été écrit en dehors de la Grande-Bretagne. Parce que là, on est quand même dans un contexte victorien extrêmement dur, avec des classes sociales vraiment très séparées. Et l'élixir, en fait, permet de casser ses frontières. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, la revendication n'était pas encore très importante, mais il y avait clairement une guerre de classe qui faisait rage. Et c'est assez emblématique que le roman a été, comme très souvent en Angleterre à cette époque, adapté pour la scène, pour le théâtre. Et ce qui est assez amusant, en faisant des recherches sur l'Angleterre victorienne, il y a quelques années, je me suis aperçu qu'il était programmé au moment des événements de Whitechapel avec Jack the Ripper. C'est-à-dire une affaire de mœurs qui était finalement, qui aurait pu être considérée comme banale. Des meurtres dans Whitechapel, il y en avait tout le temps. Là, il y avait un taux de criminalité hallucinant. Pourquoi celle-là a-t-elle défrayé la chronique à ce moment-là et pourquoi d'ailleurs continue-t-on d'en parler aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on s'attaquait symboliquement au pire. Alors le pire, c'était le plus bas de classe qu'on pouvait trouver dans le bas de classe victorien, c'est-à-dire en fait des femmes et des prostituées. Alors il faut quand même voir que Londres étant un port, à l'époque, il y avait énormément de passages, notamment les marins, et que la prostitution était extrêmement importante dans la capitale. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais ils sont hallucinants, quoi. En plus, comme bon, évidemment, il n'y avait aucun traitement contre les maladies vénériennes, ça faisait vraiment énormément de dégâts. Donc là, on avait un symbole de classe. Et ce n'est pas pour rien que, parce que bon, finalement, on ne sait toujours pas qui est vraiment Jack the Ripper, mais ce n'est pas pour rien qu'on a commencé à imaginer que ça puisse être un membre de la famille royale ou en tout cas d'une classe supérieure, voire de la noblesse. C'est parce que c'était emblématique. Et à ce moment-là, donc, il y avait en même temps, très très symboliquement, quoi, l'adaptation de Dr. Jekyll and Mr. Hyde qui était jouée sur les théâtres londoniens.
Et c'est d'autant plus fascinant l'épisode médecine Jack l'Éventreur que parmi les médecins qui ont procédé à au moins deux autopsies sur l'ensemble, il y avait l'équipe médicale de l'hôpital de Londres et notamment l'un des médecins qui soignait Joseph Merrick, Elephant Man. Donc il y a comme ça des télescopages dans la vraie vie qu'un écrivain ne pourrait pas se permettre entre Jack l'Éventreur et Elephant Man. Et en parlant d'Elephant Man, justement, et en, là, hélas, en basculant dans l'histoire, dans la vraie vie, le magnifique film, le chef-d'œuvre de David Lynch est hélas une œuvre d'art, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Frédéric Treves, le médecin attitré de Joseph Merrick, est une sorte de médecin fou, puisque quand on lit ses mémoires, il n'a absolument aucun sentiment, aucune passion, aucun intérêt pour ce malade. Il est tout simplement Merrick, Elephant Man, l'occasion de démarrer une carrière fulgurante et d'être médiatisé. Et même si Treves est un chirurgien de renom, il a été chirurgien royal spécialiste de l'appendicite, il a notamment opéré le prince de Galles et a repoussé le couronnement du prince de Galles. Donc c'était un praticien expérimenté, mais c'était un homme, comme tu l'as dit, de son temps, un victorien froid, calculateur, et qui n'a pas hésité, pour le coup, à mêler science et spectacle.
De toute façon, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est là le personnage mais historique du médecin le fait bien comprendre. Il y a, quand on écrit un scénario, il y a un certain nombre de recettes que l'on peut utiliser pour donner du poids au personnage. Alors, parmi les recettes utilisées, alors, qui valent ce qu'elles valent, hein, ce ne sont pas des dogmes, et très franchement, bon, il faut les connaître, et puis après s'en écarter un peu, parce que bon, sinon le travail d'écriture devient trop mécanique. Mais il y a une analyse de John Truby que j'aime beaucoup, qui consiste à construire le personnage, quel que soit le personnage, mais ça fonctionne particulièrement bien pour le savant fou, le médecin fou, c'est de travailler une faiblesse psychologique. Et la faiblesse psychologique mène à une faiblesse morale. C'est-à-dire que la faiblesse psychologique est totalement inconnue du personnage. Lui, le personnage, il a un but. Bon, alors ça peut être épouser Juliette, trouver l'Arche d'Alliance ou sauver le monde façon James Bond. Aucune importance, il a un but et c'est ce qui va le faire bouger pendant tout le temps de la narration, sachant qu'il va avoir des difficultés puisqu'il y a une force antagoniste, pas forcément un personnage, mais un ensemble de facteurs qui font qu'il va se retrouver devant des obstacles et donc il y aura un conflit qui va permettre le développement d'un certain nombre de péripéties qui sont celles que l'on suit et que l'on aime. Mais selon Troby, il y a la nécessité de créer un arc narratif pour le personnage, c'est-à-dire que quel que soit le personnage, qu'il ait quelque chose à apprendre tout au long du récit, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, il soit différent de ce qu'il était au début, qu'il ait évolué, généralement quand même positivement, même s'il y a quelques contre-exemples, c'est-à-dire qu'il ait suivi une sorte de parcours initiatique qui lui ait permis de reconnaître et d'identifier cette faiblesse psychologique qu'il avait dès le départ, mais qu'il ignorait. Ça, c'est très important. Lui, il a son but, point barre, mais il ne sait pas pourquoi, en fait, il peut avoir des difficultés. Et elles sont dues à la faiblesse psychologique qui le mène à une faiblesse morale, c'est-à-dire c'est le moment où la faiblesse psychologique est poussée un peu dans ses retranchements et que du coup, ou disons que dans un certain contexte, elle mène le personnage à faire du mal à autrui. Bon, alors, un exemple, histoire que ce ne soit pas trop abstrait, si par exemple un personnage n'aime pas le conflit, est tout à fait capable de se laisser marcher sur les pieds, préfère, disons, ne rien dire, laisser faire, etc. Bon, c'est une faiblesse psychologique. En conséquence, il peut très bien se retrouver dans un contexte de Seconde Guerre mondiale et d'occupation à collaborer avec l'occupant nazi sans forcément en partager les idées, mais juste pour avoir la paix, pour qu'il ne soit pas mêlé à des trucs qu'il n'a pas envie parce que justement il n'aime pas le conflit. Alors quand on développe ce type de personnage tout au long d'une narration, évidemment toute l'idée, je vous disais, c'est qu'à un moment ils finissent quand même bon, on pose le manque psychologique le plus tôt possible dans le premier acte, et puis vers la fin, il faut qu'il ait le courage de se dépasser pour finalement reconnaître cette faiblesse et devenir quelqu'un de meilleur, c'est-à-dire donc qu'il ait grandi entre-temps. On peut l'avoir, généralement, cette faiblesse psychologique, on l'a dans Le Médecin Fou. C'est typiquement, par exemple, un désir de... Il a un désir conscient de revanche, mais en fait qui correspond à une faiblesse psychologique d'un manque de sûreté de soi, par exemple, d'un complexe, ou ou s'il a souffert de brimades dans l'enfance, qu'il ait des frustrations qui le bloquent, et du coup, plutôt que de passer, de les prendre tout de suite, de les abattre tout de suite, parce qu'en fait, mais il ne peut pas, parce qu'il n'en a pas conscience, évidemment, il va s'appuyer sur un plan. Alors le plan, ça va être détruire le monde, devenir le maître du monde. On a entendu souvent la phrase dans un certain nombre de films, jusqu'au point où on sombre complètement effectivement dans la folie, et voire on peut très facilement évidemment écrire une comédie parce que finalement ces comportements sont risibles dès lors qu'ils sont poussés à l'extrême.
Dans ce type de travers, vous avez par exemple chez les savants fous à visée mondialiste, vous avez le discours, le dialogue, tous, absolument tous, quand James Bond ou le héros est enfin prisonnier, ils vont leur détailler grand A, petit A, tout leur plan, au lieu de les tuer tout de suite, une sorte de besoin de reconnaissance. Et dans le profil que décrivait Olivier, vous avez un personnage auquel on ne penserait peut-être pas tout de suite, mais qui a déjà une grande carrure, qui est charismatique et qui est en même temps très attachant, c'est Victor Von Doom, le docteur Fatalis de l'univers Marvel. Alors Victor Von Doom, au départ, lui aussi, hein, il est docteur, on ne sait pas trop en quoi. Je pense qu'ils ont tous passé un doctorat en mégalomanie. Et Victor Von Doom, au début, est simplement l'opposant, l'envers sombre de Reed Richards, celui qui deviendra le leader des quatre fantastiques. Donc il va, suite à sa mégalomanie, à son orgueil démesuré, être victime de ses propres expériences. Pour ceux qui connaissent Victor Von Doom, il doit quand même avoir le même tailleur, le même styliste que Darth Vador, parce qu'ils sont quand même... Sauf que Von Doom était habillé comme ça auparavant. Bon, bref. Et Von Doom, qui au départ est exécrable, et qui est quand même, d'un point de vue scientifique, supérieur à Reed Richards, il invente quand même une machine à remonter dans le temps dès le début, progressivement, il va s'amender, il va se trouver des raisons d'être, des raisons de faire mieux, et il va devenir notamment le souverain d'une micro-principauté d'Europe de l'Est qui s'appelle la Latverie. Il sera régulièrement à l'ONU. Et Marvel a osé faire un coup qui est très bien, c'est de le faire gagner une fois. Il y a une histoire complète où Von Doom devient le maître du monde. Et tout le monde reconnaît qu'effectivement, en un mois, il a réglé tous les problèmes de faim, de pauvreté, etc. Même Richards, même Tony Stark reconnaissent qu'il aurait peut-être fallu lui confier les clés plus tôt. Et à bout de quelques mois, Von Doom s'ennuie tellement qu'il renonce et redevient le maître du mal. C'est un personnage qui est attachant, qui se trouve une raison de faire le bien. Mais comme le bien est ennuyeux, il vaut mieux faire le mal.
Il y a une phrase un concept que l'on entend assez souvent dans un certain nombre de récits et surtout de films de la part de l'antagoniste, du méchant, parce que généralement le médecin fou, bon évidemment c'est pas le protagoniste, hein, c'est pas celui auquel qui va vraiment faire le bien et auquel on demande aux spectateurs de s'identifier, c'est quand même assez rare. Et la phrase c'est ils m'ont raillé pour quand j'étais étudiant, j'étais plus intelligent qu'eux, mais je n'ai eu que les moqueries de mes camarades et maintenant ils vont voir. Bon, ça là vraiment c'est du bonheur pour un psychanalyste, on a tout dedans. C'est effectivement le vrai problème psychologique qui pousse le personnage à agir, à prendre une revanche. Il y a une dimension psychologique énorme dans le personnage du médecin fou, parce que finalement, bon, dès qu'il commence à débloquer, on est quand même très très loin du serment d'Hippocrate. Hein. Généralement, on se retrouve à... sauf quand vraiment il se méprend. C'était effectivement, il veut faire le bien, et puis le problème, c'est que la manière dont il planifie ou tout simplement même l'idée même qu'il poursuit ne correspondent pas en fait à ce qu'il faudrait dans la situation donnée. Bon.
Alors, pas association d'idées, parce que Olivier parlait d'Hippocrate. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont dans votre famille des médecins, justement?
Et surtout des médecins fous, hein, dites-le tout de suite.
Fous, parce que si vous lisez non pas le serment d'Hippocrate tel qu'il est porté par les étudiants en médecine, mais si vous lisez Hippocrate, vous apprendrez que si jamais vous avez dans votre famille quelqu'un qui porte des soins, alors bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas médecin-infirmière, donc un soignant, eh ben vous n'avez pas à payer chez les médecins, c'est toujours bon à savoir. Donc même si votre petit cousin est aide-soignant ou infirmier, ça suffit pour ne pas payer chez n'importe quel médecin. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de vous retourner contre moi par mail ou sur Facebook, mais c'est dans Hippocrate. Bon, et puis on arrive progressivement, à la fin on va peut-être laisser un petit peu de temps pour les questions, mais il serait peut-être bon d'aborder le médecin de la dernière chance, le médecin cheap, celui qui arrive trop tard ou en retard et qui ne vaut pas le coup. Je pense par exemple... au docteur Logan dans Le jour des morts vivants, le film de Romero, où le docteur Logan vient trop tard puisque tous les zombies sont non seulement installés mais ils ont clairement gagné, et lui répare plus ou moins bien les zombies, tente d'apprivoiser les zombies et donc marque la faillite complète de la médecine, qu'elle soit saine ou folle.
Il y a peut-être aussi un autre point qui est important, c'est que il y a une hiérarchie des professions, ça c'est clair, hein, et le médecin, de façon générale, bénéficie quand même d'une image relativement positive. D'abord, un, parce qu'il a fait un paquet d'études, il dispose d'un savoir que le commun des mortels n'a pas, et en plus, ce savoir, il l'utilise pour faire le bien, à savoir soigner, sauver des vies. Bon. Donc, tout va bien, sauf qu'il y a quand même un moment, et on l'entend parfois dans des remarques du type « ouais, les médecins, ils disent n'importe quoi » ou des choses... Bon, moi, j'en connais mieux, j'en connais plus qu'eux. Bon, on sent chez ceux qui n'ont pas fait médecine une sorte de frustration qui peut très, très facilement faire accepter le fait que celui qui a fait des études supérieures soit finalement fou. Aujourd'hui, par exemple, même sans parler de médecine, il est de bon ton de critiquer, parfois à juste titre, les grands universitaires. Mais pour la médecine, c'est, je crois, encore plus délicat parce qu'il y a la notion morale de la médecine qui intervient. Finalement, c'est une figure de héros, c'est une figure de démiurge qui va pouvoir quand même faire revenir à la vie. Enfin, la manière dont on met en scène, par exemple, les fibrillations dans les films, alors on a l'impression de voir un grand sorcier qui est en train de ressusciter quelqu'un qui est déjà claqué, quoi. C'est tout à fait ridicule, mais c'est dans l'imaginaire de la médecine. Donc, cette frustration que l'on peut ressentir fait que l'on accepte assez facilement qu'ils soient plus dingues que d'autres. Au moins, ils ont un défaut quand même. Ils ne peuvent pas être totalement parfaits, ces gens-là. Ce n'est pas possible.
Et de toute façon, on a parlé du médecin en large en travers, mais il aurait fallu consacrer peut-être une table ronde entière à ce héros méconnu, celui qui parvient à comprendre et à déchiffrer les plans du médecin fou, parce que il est le seul à pouvoir le lire, c'est le héros pharmacien.
Ouais. Comme il est 48, si vous avez quelques questions, le micro va circuler.
Bien sûr, on n'a pas abordé on a abordé quelques cas réels, mais on n'a pas voulu aborder les médecins véritablement fous comme le docteur Mengele et les usages hélas réels de l'histoire. On en reste à des doudingues de l'imaginaire.
Oui, c'était pour revenir sur le dernier point que vous aviez évoqué, Olivier Côte, sur une forme de mépris vis-à-vis de l'élite, de ce que représente en tant qu'autorité en fait, le médecin. Parce que ce qui est marrant, c'est que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, le médecin est obligé de rire dans la comédie de Molière. Puis après, il devient monstrueux à partir de la Terreur. Puis ensuite, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il devient totalement fou. Quel futur médecin quand... Enfin, je ne sais pas. Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le reflet aussi de... Est-ce qu'on voit des médecins fous qui sont finalement une sorte de critique politique de comment fonctionne le système politique en général?
C'est pas n'importe quel métier, quoi. Clairement, pour la plupart d'entre nous, enfin, sauf ceux qui ont fait médecine, et encore même, c'est pas n'importe quel métier, quoi. C'est pas forcément d'ailleurs une question de nombre d'années d'études ou de capacité à entreprendre ce type d'études. Il y a aussi d'autres études qui sont tout aussi compliquées, mais il y a une symbolique qui est attachée à la médecine, et il y a un statut donc particulier de celui qui exerce. À partir de ce moment-là, c'est un déversoir à fantasmes et à une soupape de sécurité concernant pour y déverser des peurs, des angoisses par rapport à une époque. Je vous dis là, vraiment, en ce moment, par exemple, on se méfie de plus en plus de la science. Hein, et on est à peu près tous persuadés que les prochaines années vont être difficiles en imaginant qu'il y a des prochaines années. Non, non, mais je suis très optimiste. Alors, si je vous donnais vraiment le fond de ma pensée, là, vous... Donc, de là à prendre finalement des sortes de boucs émissaires, Ça rassure, et ça a toujours été le cas. Après, bon, la manière dont ils sont développés au niveau fictionnel va évidemment varier selon les époques, le contexte culturel, etc.
Puis il y a aussi le fait que sont deux médecines différentes que vous évoquez. On se moque jusque, par exemple chez Molière, du médecin qui soigne et de son sabir incompréhensible. On a peur du médecin qui cherche à comprendre. Et c'est la distinction qui existe en mathématiques ou en médecine entre théorique et expérimental. Celui qui fait rire, c'est celui que l'on côtoie, qui vient chez les gens, en fait, qui nous concerne parce qu'il touche à notre santé. Celui qui fait peur, c'est celui qui sait ou cherche à comprendre.
Mais pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le niveau d'études, la complexité, etc., clairement, quand on veut faire vétérinaire, le concours d'entrée est beaucoup plus difficile, enfin, est carrément difficile, et les études sont en fait plutôt plus ardues que si on veut faire médecine. Mais on ne se moque pas des vétérinaires. C'est curieux. Il n'y a pas de vétérinaire fou, quoi. Voilà.
Ah, dans Beethoven, il y en a un. Dans le premier film.
Mais oui, mais on parlait de fiction. Ça, c'est un documentaire, Beethoven.
C'est vrai.
Oui, moi, j'avais une question. Du coup, vous avez évoqué beaucoup d'écrivains de fin de siècle. Donc, Stevenson, Conan Doyle, ou on peut même parler d'H.G. Wells, qui ont présenté des médecins fous, des savants fous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à faire avec la crise de la masculinité qu'il y a eu à la fin du 19e, avec cette idée de combler leur déficit, leur désir inconscient de procréation, donc ils ont créé des choses monstrueuses, etc.
Bah, c'est intéressant et on aurait tendance à confirmer puisque... Le médecin, même s'il n'en a pas le titre fou historique, le grand frère des autres, c'est une créature de Marie Shelley. C'est assez vrai. Et effectivement, par exemple, chez Victor Frankenstein, faire un être humain, ce que lui rappelle sa fiancée Elisabeth Lavanza, bah, il suffit de se marier, ce qui, dans les propos extrêmement pudiques de l'époque, veut dire avoir une relation sexuelle.
De se connaître.
Oui, de se connaître, voilà. Et c'est intéressant, je pense qu'il y a effectivement une critique de la toute-puissance masculine, mais qui a un défaut de créer chez l'homme.
Ben, on l'a, de toute façon, puisqu'on parle de Wells, on l'a dans l'île du docteur Moreau. Et là, en plus, la question est même un peu plus complexe, parce que lui, il essaye de transformer des animaux en être humain. Alors, donc, il veut créer des êtres humains, mais bon, à partir quand même d'un morceau de chair animé existant. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, une fois, on retourne dans la situation dramatique de Polti dont je parlais tout à l'heure, à savoir la rivalité avec Dieu, parce que, clairement, quand on lit la Genèse, Dieu a été créé, puis ensuite, bon, il y a les animaux qui ont été créés pour le servir. Donc, il y a deux ordres. Et de qualité très différente. On a deux classes en fait, sociales, pourrait-on dire, instituées divinement. Vouloir faire passer des individus d'une classe vers une autre, c'est pervertir la loi divine, obligatoirement. Et c'est pour ça que ça finit par une catastrophe, parce que quelque part, en plus à l'époque, Wells n'aurait pas pu se permettre de dire « Ouais, super, vous voyez, ça a réussi ». Maintenant, vous pourrez, je sais pas, faire que votre chien se balade sur ses deux pattes arrière et prenne le thé avec vous à 4 heures. Bon, ça, ou 5, si vous voulez. Ça n'aurait pas été acceptable, en fait, parce que ça ne correspond pas à notre culture. Il fallait que ça merde, quoi.
Et je reviens sur la remarque qui me semble vraiment pertinente. Dans l'adaptation théâtrale de Frankenstein par Danny Boyle, il fallait résumer Frankenstein en 2 heures, et il y a des parties pris qui sont très intéressants. À un moment, donc dans la pièce de théâtre, Elisabeth dit à Victor, elle lui rappelle pour la énième fois qu'ils sont censés se marier. Et donc elle lui dit quand est-ce qu'on se mariera. Et il y a un trait de génie de la mise en scène de Boyle et du dramaturge. Donc elle lui dit, Victor, quand est-ce qu'on va se marier? Il lui fait quoi? Et c'est parfait. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié qu'il pourrait tout simplement avoir un être humain selon des procédures normales, rendre heureux l'ensemble des gens, ou en tout cas pas malheureux. Ce quoi permet de résumer des dizaines et des dizaines de pages. Et il est instantanément suivi de « Ah oui, oui, c'est vrai ». Ce qui est terrible, c'est l'homme seul, le mal seul.
Dans les médecins de la science-fiction, il y en a un qui est particulier, c'est le docteur Calvin, qui est l'invention d'Isaac Asimov, et qui ne soigne pas les humains, mais les robots. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une psy, vous les avez un peu évoqués, et elle ne se soigne que des robots malades, qui sont tous malades à cause des humains.
Il y a souvent des parallèles qui se sont effectués de toute façon entre mécanique inanimée et mécanique biologique. Je crois que c'est dans Dr Cornelius où à un moment il regarde le moteur d'une voiture et il voit immédiatement comment ça fonctionne parce que ça ressemble exactement à ce qu'on trouve dans un thorax et un abdomen humain. Maintenant, là, c'est vrai que chez Asimov, c'est intéressant parce que bon, toute la problématique évidemment tourne autour de la du pourcentage d'autonomie et de vie que possède le robot. Et les lois de la robotique, c'est celles en fait que l'on applique nous, de toute façon, pour notre société. Donc du coup, ce n'est plus un mécanicien qu'on leur donne. Ils ont besoin d'un médecin.
Le docteur Cornelius qu'évoquait Olivier est quand même l'inventeur de la carnoplastie, ce qui est quand même plus de gueule que la chirurgie esthétique.
On a beaucoup parlé des médecins fous dans cette conférence, mais on n'a pas parlé d'aucune femme qui serait médecin et folle en même temps. Est-ce que ça existe ou pas du tout? Docteur Quinn, femme médecin folle?
Docteur Quinn, femme médecin, elle est doublement soignante puisque en fait elle s'appelle, dans le titre original, c'est Medicine Woman, ce qui est un jeu de mots sur Medicine Man. En fait, elle est docteur en médecine pour la science occidentale, mais elle est chamane aussi. Donc tout le respect va au docteur Quinn. Ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle arrive à soigner une amputation, un coup de sable de cavalerie ou une explosion dans une mine avec de la sauge, une infusion de sauge. On nous fait signe qu'on a terminé, donc on vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.